Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Présence pour ce nouveau numéro de Métropolez-vous. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs de cette émission. Nous allons y poursuivre notre petit périple à la découverte des communes de Toulouse Métropole, celui que nous avons commencé il y a quelques mois. Je rappelle qu'il y a à ce jour 37 communes métropolitaines, Toulouse compris, ce qui nous laisse un vaste champ à explorer, alors que nous avons jusqu'alors fait étape à Blagnac, Flourens, Mons, Balma, Pibrac, Saint-Alban et tout récemment à Quinfonce-Grive, autant de communes qui peuvent avoir des points communs, mais aussi leurs particularités par leur histoire propre, leur patrimoine ou même leur territoire, qui présentent parfois des visages très différents selon qu'on se trouve au nord, à l'ouest ou à l'est de la métropole. C'est encore à l'est, plutôt au nord-est en fait, que nous allons nous arrêter aujourd'hui, puisque ce numéro va être entièrement consacré à l'histoire et au patrimoine de la commune de l'Union. Et l'histoire de la commune de l'Union, son patrimoine, comme d'autres communes métropolitaines, ont fait l'objet de recherches et de publications, d'expositions même. Deux passionnés ont travaillé sur le sujet, ils habitent bien sûr l'Union et ils ont eu l'amabilité de répondre à mon invitation pour en parler à l'antenne. Je souhaite donc aussi la bienvenue aux deux invités de ce numéro, Jean-François Beck et Édouard Raymondis. Merci d'être présents au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous a amené l'un et l'autre à vous intéresser à l'histoire de l'Union ? Parce que vous n'êtes pas du tout historien à la base, je le dis d'emblée. Monsieur Raymondis, vous, je crois qu'il y a un peu une histoire familiale derrière tout ça.
Oui, il y a une histoire familiale parce que Raymondis est un vieux nom toulousain, ça veut dire partisan de Raymond, on est comme ça à Toulouse. Et j'ai les papiers de la famille depuis 1781. À l'époque, c'était les Brassiers, puis ils ont fait les guerres napoléoniennes. Et à partir de là, ils vont établir les entrepôts généraux de Toulouse. Ils sont toujours paroissiens de Saint-Cernin, habitant dans la paroisse Saint-Cernin, ou hors la porte Matabio, c'est-à-dire au-delà de la rue Matabio et de la place Jeanne-d'Arc, c'était à peu près la porte Matabio, et grande route d'Albi. Donc l'Union étant leur point nord extrême, pendant 3 siècles, la famille a vécu là.
Et alors vous, je crois qu'à titre personnel, vous avez pas mal travaillé sur la période de l'occupation et sur les faits de résistance sur la commune de l'Union et autour.
Oui, parce que toute la famille est rentrée en résistance, je crois entre autres parce qu'ils étaient bonapartistes. Et ensuite, donc, ils ont entendu l'appel du 18 juin, et ils sont rentrés immédiatement en résistance. J'avais un grand-père qui était responsable du ravitaillement sur Toulouse, qui est resté jusqu'à la libération. Tous les membres de ma famille étaient résistants. Je suis né ici, pendant la guerre, à la clinique des teinturiers, et quand je vois la photo de mon baptême, devant le porche Saint-Nicolas, je peux identifier tous ceux qui ont fait la guerre de 14, tous ceux qui ont été donc résistants de 1940 à la libération.
Alors, vous parlez de la guerre de 14. Et justement, là, ça va me permettre de passer le micro à Jean-François Beck, parce que vous, vous avez été amené à travailler beaucoup sur la guerre de 14 et notamment sur les habitants de l'Union qui, à l'époque, bien, sont partis combattre sur les fronts de l'Est et dont certains ne sont pas revenus, malheureusement.
Oui, tout à fait. Vous savez que de la période 2014 à 2018, il y a eu le centenaire du premier conflit mondial et la municipalité a sollicité des unionnais qui avaient un goût particulier pour l'histoire. Et il se trouve qu'on est parti, le point de départ, ça a été tout simplement les 20 noms qu'il y avait sur le monument aux morts, sur lequel on n'avait rien d'autre qu'un nom et un prénom. Et on a essayé de les remettre un peu en lumière, de reconstituer des biographies, de regarder leur parcours militaire, de regarder où ils s'étaient fait tuer, dans quelles conditions. Et également, on a essayer de retrouver, ce qui a été beaucoup plus difficile, des traces de lettres ou de courriers ou de documents des familles unionnaises. Bon, malheureusement, c'est vrai que la commune de l'Union, au début de la guerre de 14, comptait 450 habitants. On en a 12 000 actuellement. Tout ça, toutes les familles ont été un petit peu dispersées. On a quand même réussi à récupérer des documents très intéressants. Bon, on a fait une grande exposition en 2014. Donc du coup, ça a intéressé certaines familles, nous ont donné dans ces documents des lettres très émouvantes d'ailleurs, qui sont présentées, qui sont lues par les élèves des écoles. Et puis ça, c'est un petit peu rentré maintenant dans les commémorations du mois de novembre depuis 2014.
Alors je crois aussi que pour vos travaux d'historien amateur, vous vous appuyez sur un fonds, je vais appeler ça comme ça, des travaux qui ont été réalisés avant vous par un unionnais, et je voudrais qu'on parle de ce monsieur, qu'on lui rende peut-être hommage aussi au passage.
Ah oui, ça, c'est absolument indispensable. C'est l'historienne de l'Union qui nous a malheureusement quitté en 2018, monsieur Gilbert Floutard, qui a été au début instituteur et qui ensuite a été professeur à l'école normale et qui a été aussi président des Amis des Archives de Lot-Garonne et qui a fait un travail considérable de véritable recherche et sur lequel, très modestement, je me suis appuyé pour reconstituer un peu cette histoire de l'Union. Il y a une publication dans le journal mensuel de la commune avec une rubrique qui s'appelait Bribes d'Histoire, qui était extrêmement bien renseignée. Donc je porte simplement sa parole. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion encore de faire des recherches du niveau qu'il a mené.
Bien, merci d'avoir rendu hommage donc à Monsieur Floutard et merci pour les quelques indications que vous avez déjà données. On voit un peu quelle période de l'histoire de l'Union on va aborder en détail tout à l'heure avec vous. Ce sera après que Corinne Saint-Félix nous aura donné les dernières nouvelles de l'actualité métropolitaine grâce à son flash d'information hebdomadaire Métropolez-vous, l'actu. On commence ce flash avec une information qui fait suite à un événement dont vous avez sans doute entendu parler. Une plainte a été déposée après l'intrusion de manifestants pendant les vœux de Jean-Luc Moudenc à Toulouse.
Oui, la cérémonie des vœux du maire aux agents de la ville et de la métropole a été interrompue jeudi 16 par des manifestants contre la réforme des retraites. Les manifestants étaient venus interpeller le maire en raison du soutien qu'il a reçu de La République En Marche pour la prochaine élection municipale. Il a donc été demandé au maire de Toulouse de prendre position sur le projet de réforme des retraites. Pour ce dernier, il s'agit d'un débat national qui n'a pas sa place dans une campagne pour une élection locale et de condamner la violence de l'action menée au cours de laquelle un agent a été blessé et plusieurs portes du palais des sports endommagées. Depuis, la ville et la métropole ont annoncé avoir porté plainte pour intrusion et dégradation aggravée. A noter qu'en marge de la manifestation des Gilets jaunes samedi dernier, le Capitole et la permanence de la candidate du Parti Socialiste au municipal, Nadia Pelfig, ont été couverts de graffitis.
Une information importante qui concerne les déplacements dans la métropole maintenant, le Conseil d'État a mis un coup d'arrêt au boulevard Urbain Nord.
Oui, ce projet de boulevard Urbain Nord a mis des années à voir le jour entre la Ville Rose et celle de Bruguière. Cette liaison multimodale de plus de 13 km, dont certaines parties ont déjà été réalisées côté toulousain, vient de subir un coup d'arrêt. À la demande de riverains opposés au projet, le Conseil d'État vient d'annuler l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du projet. Depuis son lancement, son tracé a suscité de nombreuses contestations jusqu'au recours devant la justice administrative. La décision du Conseil d'État est motivée par un vice de procédure mené par l'État en 2013. Cette décision ne remet pas en question le projet du BUN en lui-même, ni sa faisabilité. Toulouse Métropole va par conséquent relancer l'étude d'impact en tenant compte de la nouvelle réglementation. Celle-ci sera proposée à l'avis d'une autorité environnementale indépendante du préfet, a déclaré Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole.
Et puis, dans le domaine de la culture, une élue toulousaine est à l'honneur. Marie Desquet vient d'être nommée au Centre National de la Musique.
Oui, le Centre National de la Musique, créé le 1er janvier 2020, vise à soutenir la création française dans le secteur, à l'instar du CNC pour le cinéma, dans le secteur donc de la musique. Six représentants nommés par arrêté du ministre de la Culture, Franck Riester, ont été nommés. Ce nouvel établissement public a vocation à rassembler le Centre National de la Chanson, des variétés et du jazz, le Fonds pour la création musicale et le Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles. Il y a quatre grandes missions de service public: l'observation de la filière musicale, l'information et la formation des professionnels, le soutien économique aux acteurs et le développement international. Conseillère déléguée en charge des musiques et déléguée métropolitaine en charge du théâtre et de l'orchestre du Capitole, Marie Desquet a en charge pour les deux collectivités de Toulouse, l'ensemble du dossier de la musique, du classique aux musiques du monde, en passant par le développement des musiques actuelles et l'accompagnement de la filière.
Voilà, c'était le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix et Jean-François Beck et Édouard Raymondis. Est-ce qu'il y a une information dans ce flash que vous souhaitez commenter, peut-être celle concernant le BUN, parce que je suppose qu'une commune comme l'Union est un peu concernée tout de même?
Mais le BUN, oui, effectivement, il touche l'ouest de la commune de l'Union et il permet, a priori, de gagner plus facilement la station de Bordeaux-Rouge, puisque l'Union est un peu enclavée au niveau de l'accès au transport en commun, notamment au métro. On a d'un côté la station de Balma, d'autre côté la station de Borderouge. Et c'est un projet qui est suivi, il empiète un petit peu dans la zone des Violettes, sur la commune de l'Union. Bon, on suit aussi les péripéties de ce BUN dans la commune de l'Union.
Voilà, bah écoutez, merci d'avoir bien voulu partager cette réaction avec les auditeurs de Métropole et vous. Nous allons reprendre le cours de cette émission qui est consacrée, je le rappelle, à l'histoire et au patrimoine de la commune de l'Union.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec les invités de ce numéro, Jean-François Beck et Édouard Raymondis, deux habitants de l'Union qui aiment leur commune et son histoire. À ce propos, quand commence-t-elle cette histoire, ou plutôt quand la commune prend-elle le nom de l'Union ? L'Union, on peut penser que c'est l'union de deux lieux préexistants, est-ce que c'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça, oui. Le nom de l'Union est apparu à la Révolution. Pendant tout le Moyen-Âge, on avait toujours eu deux grandes communautés à l'Union, la communauté qui était située à l'est de Toulouse, de Belbèze, et la communauté à l'ouest de la Cournaudrique. Alors il faut savoir que l'Union est divisée en son milieu par la route de Toulouse à Albi, l'ancienne nationale 88, qui était un petit peu la ligne de partage qui séparait ces deux communautés. Il y a aussi quelque chose d'important qu'il faut signaler, c'est que l'histoire de l'Union, c'est aussi quelque part, et du territoire de l'Union, c'est aussi un peu l'histoire de Saint-Jean, la commune qui est adjacente. Puisqu'à cette époque-là, ces deux communautés se répartissaient sur ce qui constitue actuellement ces deux communes, une superficie à peu près de 1200 hectares. Et les relations entre ces deux communautés, communautés qui formaient une paroisse, dont l'église était sur le territoire actuel de Saint-Jean, elles ont été parfois un peu houleuses, parfois ça a été assez longtemps un petit peu cloche-merle. Alors, à la Révolution, on décide de réunir ces deux communes par un arrêté de 1791, et la commune prend le nom, la réunion donc de ces deux territoires prend le nom de Saint-Jean de Kyrie-Ellison, qui est le nom de l'église qui est située actuellement sur la commune de Saint-Jean, qui est la vieille église. En 1793, alors, à cette époque-là, évidemment, vous n'ignorez pas, je ne vais pas vous l'apprendre, surtout sur cette radio, que l'église n'était pas forcément en odeur de sainteté.
Il est vrai que Saint-Jean de Kyrie-Ellison, en 1793, ça devait un peu être dissonant.
Oui, enfin, vous en savez plus que moi, mais le Kyrie-Ellison, c'est une prière, ça passait assez mal. Et c'est à cette occasion qu'on a décidé d'appeler la commune l'Union. Moi, je crois que c'est un nom que je n'ai pas trouvé dans le reste de la France. Et cette communauté va durer 80 ans à peu près, avant un nouveau schisme qui va survenir en 1868. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc une seule église qui était sur le territoire de Saint-Jean. À l'époque, comme vous vous doutez, les routes n'étaient pas goudronnées, il y avait des grosses difficultés à se déplacer, c'était très boueux à certaines périodes, et les habitants qui habitaient sur le bas de l'Union, dans la zone de la route de Bessières actuellement notamment, avaient des grosses difficultés pour rejoindre cette église. Cette église de Saint-Jean également commençait à avoir besoin de très grosses réparations, et ils décident de faire une nouvelle église là sur le territoire de l'Union, l'église actuelle. Elle est construite sur des fonds privés par le possédant du château de Malpaga, la famille Lestrade. Et cette église est à peu près terminée vers 1865. Et là, les problèmes commencent parce qu'une fois que l'église est terminée, on se dit on ne va pas avoir deux églises pour la même paroisse. Il est envisagé de raser l'ancienne église. Et là, c'est vraiment un grand schisme, des gros problèmes au conseil municipal, des décisions, tant et si bien qu'ils sont irréconciliables et que le préfet décide en 1868
de séparer les deux territoires.
Donc en fait, si vous voulez, l'histoire de l'Union, c'est l'histoire d'une réunion nord-sud des deux communautés de Belbèze et la Cournaudrique en 1791, et ensuite d'une division est-ouest qui va permettre de faire deux communes de surface à peu près égale. On a fait attention, il faut à peu près 600 hectares et d'une population identique des deux côtés.
J'allais dire que ce qui est étonnant, c'est que les gens, les Toulousains, me disait quand j'étais enfant, ah, vous habitez à Saint-Jean-de-l'Union.
Et oui, oui.
Ils en disaient Saint-Jean-de-l'Union et ça reste encore.
Oui, oui, ça reste encore, je l'entends encore, moi, parfait. Ouais. Alors, maintenant, on va remonter beaucoup plus loin, avant que ce territoire prenne le nom de l'Union. Les premières traces de communautés humaines, les plus anciennes qu'on trouve sur la commune, alors je crois qu'il y a une histoire de pirogue.
Oui, en 1988, à l'occasion du creusement de l'Erse et de la Source, qui est un petit affluent, on a retrouvé deux pirogues. L'une datée de l'âge du bronze, c'est-à-dire moins 1800.
Oui, alors l'âge de bronze, je situe pour les gens qui ne connaissent pas forcément, c'est entre moins 1800 et moins 700 avant Jésus-Christ. C'est voilà. Quand même sur un millénaire, mais là c'est l'âge de bronze le plus ancien, apparemment.
Voilà. Et la seconde date de l'époque carolingienne. Alors ce qu'il faut bien s'imaginer, on a du mal, il faut resituer un peu le contexte, c'est que le tracé de l'Hers actuel n'a absolument rien à voir à ce qu'il était à l'époque. C'était un tracé tout à fait sinueux, très marécageux, il y avait des arbres qui en combrait un petit peu ces marécages, beaucoup d'arbustes, etc. Ce qui explique d'ailleurs qu'on pouvait pratiquer la pêche, chose qu'on ne pourrait pas faire actuellement.
Oui.
Surtout avec des pirogues qui mesuraient à peu près des pirogues monoxyles, c'est-à-dire taillées dans un seul tronc. Tout à fait, qui faisait 7 ou 8 mètres de long. On imagine bien que la zone inondée devait couvrir une grande surface. Donc on a retrouvé ces pirogues à peu près à 6 mètres de profondeur à l'occasion de ces creusements de l'Hers. Elles sont exposées maintenant dans un petit musée qui n'est ouvert que lors des journées du patrimoine, qui est situé à la ferme de Belle-Hôtesse.
Alors après, je suppose que les autres vestiges qu'on trouve, c'est l'époque gallo-romaine.
Alors l'époque gallo-romaine, là aussi on a peu de traces, on sait qu'il y avait, à ce qui s'est apposé pendant très longtemps, la ferme de Bordeneuve, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un peu l'Union, derrière la Grande Halle et au niveau à peu près du groupe scolaire de Belbèze, on a retrouvé différents artefacts, des fondations, on a retrouvé des restes de briques, de tuiles aussi, ce qu'on appelait des tégoulas. On a retrouvé aussi des briques qui composaient l'hypocauste aussi. L'hypocauste, c'était un système très astucieux que les Romains avaient développé, une espèce de chauffage par le plancher dans lequel on faisait circuler de l'air chaud. On a retrouvé des briques de ce type, on a retrouvé des restes de marbre, des tessères, c'est-à-dire des petites pièces qui servent à faire des mosaïques, etc. Des vestiges sont situés actuellement derrière la Grande Halle qui ont été en fait récupérés de fouilles qui ont eu lieu dans le quartier de Saint-Étienne et qui justement aussi sont des restes de thermes privés où on retrouve des éléments d'hypocauste notamment.
Est-ce qu'il y a des traces de passage des Visigoths dans le coin?
Les Visigoths, effectivement, puisque vous savez que Toulouse a été capitale visigothe au 5e siècle. À l'Union, comme d'ailleurs dans toute la région, ils n'ont pas laissé d'artefacts du style de ce qu'on vient d'évoquer. On ne trouve ni d'artefacts et ni non plus de traces dans la toponymie. Vous savez que tous les noms qui se terminent par ens et qui sont très nombreux à Toulouse et autour de Toulouse et même plus loin.
Dans la région.
Hein. Escalquens, Florence, Rabastens, c'est un suffixe d'origine visigothique qui vient de l'ancien germain ingos qu'on retrouve actuellement dans des villes du sud de l'Allemagne, Tübingen, Sigmaringen. Donc on a la trace du passage de ces peuples germaniques.
Alors on va arriver au Moyen-Âge, mais on va parler de manière générale de l'Ancien Régime. Qu'est-ce que devient ce territoire pendant ces périodes? Est-ce qu'il y a des faits marquants, des seigneurs? Alors, je pense que ça devait appartenir à la paroisse Saint-Cernin, sans doute.
Alors, je vous le répète, je parle de l'ensemble du territoire correspondant aux deux communes, puisqu'ils n'étaient pas séparés. Il y avait deux grands domaines. L'un qui s'appelait le domaine de l'Estaquebio, qui appartenait aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui sont devenus l'ordre de Malte. C'était un domaine qui faisait quelques dizaines d'hectares, j'ai plus le chiffre exact. Et vous aviez surtout, sur la commune de l'Union, le domaine de Saint-Capré. Alors, il s'appelait Montmazalguet, il est devenu ensuite Saint-Capré parce qu'il y avait une petite chapelle qui, lui, était très importante puisqu'il faisait 175 hectares, à rapporter des 600 hectares à la surface actuelle de la superficie actuelle de l'Union et qui permettait aux chanoines de Saint-Cernin d'avoir de la subsistance, fruits, légumes, etc. Et également des revenus, puisqu'il y avait aussi cet aspect financier.
Alors, il y avait sans doute des capitouls aussi qui avaient des propriétés ou des pasteliers.
Alors,
vous êtes côté un peu Tarn-Lauragais. Hein.
Oui, alors la particularité de l'Union, c'est que l'essentiel des domaines n'appartenait pas à des seigneurs proprement unionnés. C'était surtout des notables toulousains. Oui. Ou des capitouls.
C'est assez classique pour beaucoup de communes, apparemment de l'Est de la métropole toulousaine.
Donc, ils trouvaient, comme pour les chanoines de Saint-Cernin, des sources de revenus, des sources d'approvisionnement en nourriture dans ces domaines-là. Et la plupart, effectivement, étaient capitouls. Moi, j'ai quelques noms. J'ai retenu Jean de Bernis, qui était le seigneur de la Cournaudrique en 1500, François de Rességuier et Christophe Ménard, qui étaient respectivement conseillers au Parlement et avocats au Parlement, qui étaient des co-seigneurs de la Cournaudrique. Joseph Ménard également, qui était le seigneur de Belestan, la Cournaudrique et Belbèze. Mais je vous le répète, la plupart du temps, ils n'habitaient pas l'Union. Ils avaient des propriétés dans Toulouse.
Est-ce qu'il y a des traces de châteaux datant de l'Ancien Régime sur la commune de l'Union?
Alors, on a trois grands châteaux à l'Union. Le château de Belbèze, qui est actuellement une résidence privée. On a le château de la Cournaudrique, qui a été construit en 1522 par Jean de Bernis. Et on a surtout le château de Malpaga. Alors, Malpagat en occitan, c'est un nom un petit peu étonnant, ça signifie mal payé. Pourquoi? Parce que les propriétaires, la famille Lestrade, avait la réputation de très mal rémunérer les ouvriers qui étaient employés à sa construction.
Mais voilà. Il est assez récent, ce château de construction.
Il date de 1840.
Oui, voilà, donc le 19e.
Et il a été bâti, justement, ça c'est un autre événement important qui s'est passé à l'Union, puisque vous savez qu'à la Révolution, on a confisqué tous les biens à l'Église et à tous les grands, à les seigneurs. Et il a été vendu, justement, à cette famille Lestrade. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste la petite église de Saint-Capré, et il n'a été construit que beaucoup plus tard, ce château, en 1840.
Alors, la Révolution française, on en a un petit peu parlé déjà, il n'y a peut-être pas d'autres faits à rapporter, à part ceux que vous avez signalés, hein, de la constitution vraiment de la commune. Il y a un épisode important dont il faut qu'on parle, c'est que lors de la retraite d'Espagne, le territoire de la commune, d'après ce que j'ai pu trouver, a été le théâtre de combat entre les troupes napoléoniennes menées par le maréchal Soult et celles du duc de Wellington qui les poursuivait. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus?
Alors si vous voulez, il n'y a pas eu réellement des gros combats. L'essentiel des combats de la bataille de Toulouse le 10 avril 1814 se sont passés sur le plateau de Jolimont. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il faut resituer un petit peu le contexte. Les Français, c'était les troupes qui étaient auparavant au Portugal et en Espagne et qui subissaient des revers continuels depuis à peu près 1812, qui étaient repoussés jusqu'aux frontières de la France. La dernière grande bataille qui a eu lieu, c'était à Orthès. Et à cette époque-là, les troupes françaises étaient commandées par le maréchal Soult, qui était un enfant du pays, hein, puisque vous savez qu'il est issu d'un petit village qui s'appelle Saint-Amand-Soult
maintenant, oui.
Dans la région de Mazamé. Donc il connaissait la région, il s'est replié sur Toulouse, il en a fait des fortifications, il en a fait une place forte. Les Anglais sont arrivés après, ils ont passé la Garonne à peu près au niveau de Beauzelle, et du coup ils se sont retrouvés dans la plaine, ils sont arrivés par l'Onaguet. Ensuite il fallait gagner Toulouse, et tous les ponts avaient été détruits, sauf le pont de l'Union, le pont de Croix-Dorade, qu'on appelait le pont de velours. Et ce pont était gardé par une escouade de hussards français qui était chargée, bien sûr, de repousser les attaques ennemies. Et ils ont vu arriver une troupe de cavaliers, de hussards anglais, avec des parapluies. Ils étaient un petit peu surpris. Les hussards anglais ont chargé ce détachement de hussards français. Quand ils ont voulu utiliser leurs armes, qui étaient, vous savez, des armes à silex, ils n'ont pas fonctionné. Et alors que les Anglais, qui avaient pris la précaution de les abriter avec ces parapluies, ont fonctionné et ils ont fait fuir les Français. Et c'est par ce petit pont, qui est à côté du Castorama actuel de l'Erse, que toutes les troupes anglaises sont passées. Alors c'est étonnant, quand même Wellington aurait dormi la veille de la bataille de Toulouse au château de Cournaudric. Le vainqueur de Waterloo qui fait un séjour à l'Union. Ça c'est une chose qui est à vérifier.
J'ai un de mes ancêtres, François Raymond X, qui a fait la campagne en Espagne dans l'armée de Soult. Il a donc participé à la bataille de Toulouse et Soult a fini la bataille. Donc il savait que les Anglais avaient une artillerie bien supérieure, que la ville risquait d'être détruite, que il y aurait de nombreux morts, et lui attendait que l'armistice soit signifié aux Anglais et à lui-même. Donc il a fait mettre des sacs de jute en sabot de sa cavalerie, et il s'est replié sur Castelnaudary, de façon à ce que s'il y avait bataille avec les Anglais, la population civile de Toulouse soit protégée, ainsi que la ville rose. Et effectivement, ils sont sortis en silence, les Anglais s'en sont pas aperçus. Le lendemain matin, les Anglais ont été acclamés comme des victorieux, mais en réalité, celui qui était victorieux, c'était bien Soult. Il avait empêché que son armée soit faite prisonnière, que les armes passent aux Anglais, et François Raymond X, donc, s'est retrouvé retraité, pensionné au Pont-Jumeau.
Voilà, donc le 19e siècle, on en a parlé, l'épisode des deux églises Saint-Jean-l'Union, donc la séparation des deux communes. Guerre de 14, bon, vous avez évoqué les travaux que vous avez faits, mais bon, évidemment, il ne se passe rien sur le territoire de la commune. En revanche, Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation, là, monsieur Raymond dit, vous avez des choses à nous raconter, je crois.
Oui, alors sous l'occupation, il y a eu le QG de la 35e brigade Marcel Langer, qui a été installé, grâce à la sympathie d'une famille de paysans de l'Union, dans l'ancienne gare de Loubers, qui passait donc le long de l'Erse. Et là, Marcel Langer, qui était un ancien de la guerre d'Espagne, polonais, qui était parti avec sa famille en Palestine, qui voyant les tensions entre les Juifs et les Arabes de Palestine, a préféré repartir pour s'engager dans la guerre d'Espagne. Donc il fait la retirada, et de là, il se retrouve en camp de prisonniers, donc, dans les Pyrénées-Orientales. Il est exfiltré par des camarades communistes, et il trouve un travail sur Toulouse, avec son armurier. Donc, et chercher un lieu où pouvoir installer une armurerie et un QG. Donc c'est la fille d'un cultivateur de l'Union qui prête cette gare qui est désaffectée. Ils vont restaurer des vélos qui volent en ville, de façon à pouvoir se déplacer de façon très discrète. Ils vont faire toutes leurs actions de sabotage, etc., avec des vélos. Et avec de la dynamite qui lui avait fournie par les Espagnols qui travaillent dans les mines des Pyrénées. Personne ne s'est rendu compte à l'Union qu'il y avait un QG résistant là. Et si bien qu'à la fin de la guerre, ils ont été rattrapés par la Gestapo et déportés dans le dernier train de résistants. Et tout le monde avait oublié cette gare de Loubers. Le hasard a voulu que, comme je m'intéresse à l'histoire et en particulier à la résistance, puisque je suis vice-président de l'association François Verdier, donc en lisant des livres sur la résistance, j'ai trouvé plusieurs livres sur la résistance à Toulouse, et donc c'est la 35e brigade, et le fait qu'ils étaient installés à la gare de Loubers, voilà.
Après 1945, jusqu'à nos jours, la commune de l'Union, c'est ces communes de la périphérie toulousaine qui, à la base, étaient plutôt rurales et qui vont énormément s'urbaniser. Alors, concernant l'Union, l'urbanisation commence à la fin des années 60.
Elle commence à partir surtout de l'indépendance de l'Algérie. Ouais, 549 habitants en 1946. En 62, on en a 1400. En 64, on en a déjà 3000. Et puis ensuite, ça explose. Il y a des quartiers qui se créent, le quartier des Acacias et d'autres quartiers. On en est actuellement à 13 000 habitants, pratiquement.
Et puis là, on est vraiment aux limites, je pense, de ce que peut recevoir la commune, en tout cas en l'état actuel.
Oui.
Ou alors, il faut construire vers le haut, quoi.
Oui, puisque la commune a la particularité d'avoir quand même un nombre de villas qui est important. Il n'y a plus tellement d'espace libre pour construire. Il y a juste une chose qui s'est passée, qui a été inaugurée d'ailleurs à l'été dernier. C'est le nouveau quartier, le quartier de la Violette, hein, qui est pas loin de cette gare de Loubers qu'évoquait Édouard. Et on en a profité pour changer un petit peu, en faire aussi un petit peu le quartier mémoriel, donner les noms de rues, de résistantes, parce que les résistantes sont quand même peu honorées, le nom de 5 résistantes à ce nouveau quartier. Donc un peu, c'est notre pôle, un peu de mémoire finalement.
Voilà, mais nous devons maintenant terminer cette émission. Un grand merci à vous deux, Jean-François Beck et Édouard Raymondis, d'en avoir été les invités et d'avoir été nos guides à travers le temps, à travers les siècles de l'histoire de l'Union, de nous avoir fait découvrir son patrimoine, qui est encore plus riche que je le croyais. On sait que l'Union, à l'image d'une commune plutôt cossue, très résidentielle à la périphérie immédiate de Toulouse, mais on a pu constater grâce à vous qu'il serait réducteur de ne l'avoir qu'ainsi, et les Unionnais doivent être les premiers à le savoir. Sur le site de la mairie de l'Union, je signale qu'il y a des rubriques consacrées au patrimoine et à l'histoire de la commune. Vous parlez de bribes d'histoire. Il y a une rubrique bribes d'histoire. Je vous invite donc à vous connecter au site www.ville-l'union.fr pour les consulter. Notre prochain numéro sera dédié à la découverte d'une autre commune métropolitaine, probablement celle de Castelginest, une commune du nord du territoire métropolitain. Ce numéro de Métropolis vous êtes animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.